Bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous. C'est toujours une joie de pouvoir me retrouver ici et par l'occasion, je remercie les responsables de l'Église qui me font confiance, qui m'invitent à venir passer non seulement des bons moments avec vous, mais aussi pour partager la parole. Je dis toujours que nous avons intérêt, en tout cas, en connaissant Jésus, de pouvoir bâtir sur sa parole. Puisque si nous nourrissons de la parole, nous allons pouvoir faire la différence partout où nous sommes. Et comme message que je voudrais vous partager, c'est un message qui est pratique. Pratique parce que c'est quelque chose qui fait partie de tous les jours. Excusez-moi. À l'époque, dans les années 80, nous étions encore au Rwanda, et chaque semaine, nous allions au cimetière. Cimetière parce qu'on devait enterrer telle ou telle personne. Ce n'était pas nécessairement des personnes proches, mais des personnes avec qui on travaillait, des amis. Contrairement ici, en Belgique ou en Europe, on assiste aux enterrements des personnes les plus proches, mais au Rwanda, en général, quand on connaît quelqu'un, on y va. Et c'était la période où le sida commençait. Et c'était vraiment, c'était pas une blague. Toutes les semaines, on allait au cimetière. Et on chantait les chants Kinyarwanda. Je vais le dire, parce que c'était un chant catholique, mais que je, à force de le chanter, j'étais obligé de le connaître. Twari mewe kuzajya mu ijuru. Niho twese tuzishima iteka tuzajya mu ijuru bitumara agahinda iyo makuba yaje twiringira Imana. Si j'essaie de traduire, nous avons été créés tous pour aller au ciel. Au ciel, on n'aura pas de tristesse. Et quand les problèmes arrivent, quand les événements pareils arrivent, c'est à ce moment-là qu'on a toujours tendance à revenir vers Dieu. Et quand on se promène dans les cimetières, je ne sais pas si vous avez l'occasion, le Toussaint vient de passer, il y a beaucoup de gens qui vont visiter les leurs, entre guillemets, et vont visiter les cimetières, et quand on y va, je vous invite un jour d'y aller, et vous verrez bien, et vous allez découvrir les paroles qui sont inscrites sur ces tombes. Et sur ces paroles, la plupart du temps, quand on fait attention ici, on dit « ici repose tel ». Ici repose, j'ai oublié le mot, « en paix, telle personne ». Ici repose en paix, telle personne. Ici repose en paix, telle personne. Des fois, ce sont les familles qui sont superposées. Ici repose en paix, telle, telle, telle personne. Et une réflexion peut survenir. Toutes ces personnes qui reposent en paix, si on les ressuscite, curieusement, ils ne sont plus en paix. Je le répète, et c'est une réalité, beaucoup de personnes reposent en paix dans les cimetières, mais si on les ressuscite et si on les met ensemble, ils sont incapables d'être en paix. Ça, c'est bien sûr très curieux et c'est difficile. Et je n'aimerais pas, en tout cas, que ma famille, surtout avec ma femme, qu'on repose en paix quand on sera en cimetière. J'aimerais bien le vivre maintenant. Il faut que nous nous efforcions, chrétiens ou pas, d'essayer de reposer en paix. Et le message de ce matin, c'est celui que j'introduisais, c'est être des artisans de paix. Être des artisans de paix. Ça marche ce truc. Pour avancer, c'est comment? Ah, bien sûr, ça c'est le verset que j'aime beaucoup, qui est affiché dans mon cabinet. Les bontés de l'Éternel sont renouvelées chaque matin. Sa compassion, c'est qu'ils ne sont pas épuisés, ils ne sont pas à terme, elles sont renouvelées chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce verset, je l'aime beaucoup, et je l'affiche partout, et j'aime bien me rappeler de ce verset chaque fois que je me réveille, puisque justement, ça fait que je passe une belle journée. Alors, par là. Ok, artisan de paix, merci. Bon, ça c'est le verset que Médard a lu tout à l'heure. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça c'est la version Louis II. Dans notre version, heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Et enfin, la dernière partie, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le premier artisan, bien sûr, c'est Dieu. Puisqu'un artisan, c'est quelqu'un qui part d'une situation chaotique, qui n'a rien, et puis par le fait de ses mains, par le fait de son intelligence, par le fait de son de ce qu'il est, il va en sortir quelque chose. Dieu, il va partir du chaos, du néant, et il va créer la terre. Il va nous donner ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et ici, j'ai quelques... Bon. Je ne sais pas comment je dois faire. Où est-ce que je dois aller? Oui. Bon, ça avance pas. Si quelqu'un peut le faire à ma place, serait gentil. Les images qui suivent, c'est les images des artisans. Bon, les artisans, bien sûr, comme je l'ai dit, sont des personnes qui partent de rien et qui vont faire des choses merveilleuses. Donc, je vous ai parlé de Dieu qui est parti de rien et qui a fait l'univers dans lequel nous vivons. Et dans le monde, on trouve pas mal d'autres artisans. Et de ces artisans, on voit les potiers. L'image, j'espère, va apparaître. Quand j'étais au Rwanda, j'avais l'occasion d'habiter à côté des gens qui manipulaient l'argile. Voilà, merci beaucoup. Les gens qui manipulent l'argile, c'est du néant, c'est de la boue. Mais à force de manipuler l'argile, ils parviennent à faire quelque chose, des vases, des pots agréables. On peut avancer encore une fois, si vous permettez. Voilà, regardez. Ok, merci. Ça, c'est quelque chose qui est bon pour la poubelle. Même les poubelles ne vont pas l'accepter. Mais dans les mains d'un artisan, quelque chose de merveilleux sort de ce qui était très, très mauvais. Ça, c'est les mains d'un artisan. Ça, vous n'allez pas le reconnaître, le croire, mais c'est vraiment la même personne. La même personne, à droite, il n'a pas de dents, il a des dents qui sont très très mauvaises, et passé dans les mains d'un artisan, tout va changer. Il a de belles dents, et la personne à peine méconnaissable, ou plutôt reconnaissable. Donc, heureux les artisans de la paix. Si nous faisons la paix autour de nous, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Notre bonheur, la plupart du temps, déjà, croit que le bonheur peut dépendre des finances, mais à dire vrai, le bonheur ne dépend pas des moyens financiers. Ça, je pense que je vais... Ici, c'est vrai que j'avais oublié le mot artisan au niveau... Du grec, la signification, c'est celui qui procure la paix, le pacificateur ou l'artisan de paix. Et l'artisan, bien sûr, on vient de voir. Et maintenant, notre bonheur ne dépend pas de nos finances, mais d'une paix, et cette paix dépend plutôt de la relation qu'on vit avec Dieu. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, particulièrement, était très touchée et il y avait des situations qui étaient difficiles à vivre. Et en France, un ministre a dit « Donnez à chaque Français ou à chaque famille française un toit procurer à chaque Français un repas par jour et tous les Français seront heureux. 70 ans plus tard, tous les Français, à part l'exception, ont un toit. Tous les Français mangent 2, 3, 4 et 5 fois par jour si on prend entre les repas. Et tous les Français ne sont pas heureux. On voit bientôt, on voit en tout cas ces derniers temps, on a vu beaucoup de manifestations dans les rues. Et je crois que ce qui est en France est aussi valable en Belgique. Donc, son ministre là croyait que les biens matériels ou les finances auraient pu contribuer, en tout cas auraient pu rendre les Français heureux. Hélas, on n'est pas heureux, même si on a tous les moyens qu'on peut avoir. Les gens ne sont pas contents. Et ici, dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer une collègue qui avait pris deux semaines de congé. Il était parti à Bali, une île magnifique. Je n'ai pas encore été, mais apparemment, c'est vraiment très, très beau. Et quand il était là, il a vu, bien sûr, beaucoup de touristes. Mais aussi, ce qui l'a impressionné, c'est la vie des personnes qui sont sur place. Il m'a dit, j'ai été là-bas, j'ai, c'est vrai, visité, j'ai aimé, mais en revenant de là, la conception de la vie change. Je dis, qu'est-ce que tu as vu de particulier? Il me dit, j'ai vu à côté des touristes qui étaient venus pour chercher le bonheur, des personnes locales qui étaient contents alors qu'ils n'avaient rien. Et malheureusement, ici, on a toujours tendance à lier le bonheur avec les moyens financiers. Jeudi soir, j'ai mon GSM, ma main, et je tombe sur cet article. Apparemment, les Belges font partie des gens les plus heureux de l'Europe. Plus de 76% des Belges sont heureux. La moyenne européenne, c'est de plus ou moins 60%. Bien sûr, on peut se poser la question, qu'en est-il des 40%? Et ici, il faut voir, puisqu'en fait, ils ont fait des statistiques pendant 4 semaines. Et dans ces 4 semaines, je me pose la question si ça n'a pas été pendant l'été, quand il y avait un peu plus de soleil. Puisque quand il y a du soleil, en général, tout le monde est souriant. Donc, on peut se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas contents, ou qui ne sont pas heureux, ou qui ne sont pas en paix. Puisqu'en fait, les deux sont malgré tout liés. Si on n'est pas heureux, on n'est pas en paix. Si on est inquiet, on n'est pas heureux, on n'est pas en paix. Donc, pourquoi tous ces gens ne sont pas réellement en paix? Je pense qu'on n'est pas en paix parce que, bien sûr, on n'est pas heureux parce que, dans un premier temps, on va croire que ce sont les moyens financiers, ce sont les plaisirs éphémères qui vont vous donner la paix. Mais une fois qu'on a fait ces plaisirs, on se rend compte, c'est vrai, c'est éphémère. On peut aller à Walibi, on peut aller partout où on veut, on peut aller dans un bon cinéma, on peut aller partout où on veut, mais quand on va rentrer, on revient et on est ce qu'on était. Et je crois que même au niveau de l'Église, je ne sais pas si tout le monde est heureux. Et si nous ne le sommes pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas la paix en soi-même, on ne peut pas répandre, on ne peut pas être un artisan de la paix si on n'a pas la paix. Donc la première chose qu'on doit avoir, c'est avoir la paix soi-même. Et pour avoir cette paix, il faut d'abord être sûr qu'on est bien avec Dieu, puisque la paix nous viendra sûrement de Dieu. La plupart du temps, nous avons une mauvaise perception de Dieu. Mauvaise perception, pourquoi? Parce qu'on se dit, si on ne fait pas ça, on n'aura pas ça. Avant-hier, j'avais une patiente qui est venue me voir parce qu'elle avait des problèmes. Bon, il venait pour un petit contrôle d'ailleurs, et puis on a parlé, il me dit, je suis vraiment quelqu'un de très malheureuse. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est lié à mon ex-mari, puisqu'on avait des relations qui n'étaient pas bonnes. Et puis depuis qu'on s'est séparés, avec mes enfants, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ces enfants vont devenir si je ne suis pas là? Bon, il avait vu le verset que vous avez vu ce matin. Bon, et puis il me dit, est-ce que vous êtes croyant? Je lui dis, oui, je suis croyant, je crois en Dieu. Et si je ne crois pas, je ne serai pas ici et je ne serai pas à mesure d'être ce que je suis. Et on a discuté, je lui ai dit, madame, la situation que vous avez, c'est parce que vous voulez tout contrôler vous-même. Il me dit, je crois en un Dieu. Il était musulman. Il me dit, est-ce que vous êtes musulman? Non, je ne suis pas musulman, mais j'ai des amis musulmans et je crois que Dieu est à mesure de faire des choses merveilleuses au lieu de continuer toujours à vous soucier ni de vos enfants, ni de tout ce qui se passe autour de vous, puisque de toute façon, vous n'y pouvez rien. Bien sûr, la perception musulmane, en général, on se dit, si je ne fais pas ceci, je n'aurai pas ça. Mais malheureusement aussi, au niveau des chrétiens, nous avons toujours tendance à croire que Dieu va nous aimer parce que nous avons fait ceci, parce que nous avons fait ceci. Parce que nous avons été à l'église le samedi, parce que nous avons donné des dîmes, parce que nous avons fait ceci. Bien sûr, c'est important d'aller à l'église. Bien sûr, c'est important de donner les offrandes. Bien sûr, c'est important de donner les dîmes. Mais je ne crois pas que c'est ça qui va influencer l'amour de Dieu. Aujourd'hui, peut-être quelqu'un a dû se disputer avec les enfants, avec l'épouse qui était en retard, avec telle chose. Est-ce que vous croyez que Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes fâché avec votre épouse? Est-ce que c'est parce que vous avez dit de bonnes paroles à votre épouse, à vos enfants ou à ceci que Dieu vous aime le plus? La bonne nouvelle, c'est que même si vous êtes méchant et mauvais, Dieu vous aime. Vous n'allez rien faire de plus qui va influencer l'amour que Dieu a envers vous. Tout simplement, et j'aime bien ce verset, Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, les moins mauves du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Ce Dieu-là, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, il nous aime. Bien sûr, c'est comme un papa ou comme une mère. Si nous faisons de mauvaises choses, le Saint-Esprit est triste. Mais si nous faisons de bonnes choses, il est content. Nos enfants, ce n'est pas parce qu'ils vont amener un bon bulletin qu'on va les aimer plus. Bien sûr, on sera fiers quand ils ont réussi. On sera fiers qu'ils ont un bon bulletin. On sera fiers qu'ils avancent. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait de mauvaises choses que notre amour va changer. De la même façon, Dieu nous aime. Qu'on fasse de bonnes choses, qu'on fasse de mauvaises choses, Dieu nous aime, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire de mauvaises choses. Automatiquement, si nous savons que Dieu nous aime, si nous savons qu'il va habiter à nous, si nous savons qu'il nous donne la paix, nous allons aussi être à mesure de répandre cet amour, de répandre cette paix autour de nous. Donc, quand nous recevons la paix de Dieu, on va la répandre autour de nous. Et ici, j'ai mis quelle est la différence entre les enfants de Dieu et les autres enfants et les autres du monde. Puisque quand on est les enfants de Dieu, nous sommes censés montrer la différence. Je vous invite à lire le sermon sur la montagne. Ça fait quelques jours que je me suis mis, chapitre 5, 6 et 7, et c'est merveilleux de voir, bien sûr, Jésus, quand il va parler de ses béatitudes, il donne quelques clés pour être heureux. Et ces clés sont multiples. Et il va continuer. Et quand il va enseigner, il va notamment dire que nous devons aimer nos ennemis. nous devons aller au-delà. Nous ne devons pas saluer seulement les personnes que nous connaissons. Et je vous invite, c'est vrai, ce n'est pas facile, surtout à la période d'hiver, de dire bonjour à tout le monde, puisque vous allez dire bonjour aux gens, ils ne vont pas vous répondre nécessairement. Mais je vous invite à faire l'expérience quand même, parce que nous sommes différents. Nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être différents, oser faire des choses, à la limite, oser aller contre le courant, donner le sourire, adresser un petit bonjour aux gens. Je crois que les gens ne vont pas... Si vous souriez aux personnes, peut-être ils ne vont pas réagir le premier jour, mais à force de le faire, ils vont se demander qu'est-ce qui pousse la personne à faire ça. Et c'est ainsi que Jésus va d'ailleurs le dire en Matthieu 5, verset 17, je crois. Faites de bonnes choses et les gens vont voir et vont se poser la question comment vous le faites et ils vont alors commencer à glorifier Dieu. En Romains 12, je crois, le verset qui va suivre. Bon, humainement, nous avons souvent toujours tendance à nous venger. Les gens nous font du mal et nous allons aussi faire du mal. L'idée de vengeance domine. Et il y a cette notion qui m'a surpris, tendance à mordre, tendance à faire le mal. Et ici, on raconte l'histoire, peut-être pas vraie, mais qui est quand même instructif. C'est une femme. La femme, elle est malade. Elle est malade, elle se présente chez le médecin. Et quand il arrive là, gravement malade, le médecin fait le nécessaire, fait les examens, et puis il y vient pour les résultats. Et la dame, quand il arrive, il dit, le médecin annonce le diagnostic, il dit, madame, vous avez la rage. Et quand madame apprend qu'elle a la rage, elle s'incline, elle va dans son sac, elle prend un bic et commence à noter. Il dit, madame, ne vous en faites pas, la rage actuellement, elle se soigne. Vous n'allez pas mourir. Et la dame doit répondre, non, je sais, je ne vais pas mourir, mais je fais la liste des personnes que je vais mordre. Ne riez pas, puisque j'ai été surpris de voir justement ce verset. Je pense que je l'ai... Je vais avancer, si vous permettez. Est-ce qu'il est là? Bon. C'est Paul qui écrit aux chrétiens de Galate. Mais si vous vous mordez, autrement dit, ils se mordent. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Et ici, justement, cette notion de vengeance ne rendait à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » La plupart du temps, bien sûr, nous allons voir des personnes qui vont nous faire du mal, et on risque humainement d'avoir tendance à nous venger. Mais je crois que, en face de Dieu, nous devons éviter à nous venger. Nous devons savoir que nous avons un Dieu qui veille sur nous, un Dieu qui est capable de faire la différence et qui peut s'occuper de tous nos conflits. Qu'on le veuille ou non, chrétien ou pas, les conflits, on va les avoir. Il y a des conflits au niveau des couples qui se déchirent. Les enfants, la preuve, les premiers enfants qui sont nés à Abel et Caïn se sont bagarrés, il y a eu des rivalités. Dans le milieu de travail, les guerres civiles, même au niveau des églises, les problèmes seront là. Question, comment est-ce qu'on va faire pour justement gérer ces conflits? Puisque si on ne les gère pas bien, la situation sera catastrophique. La plupart du temps, au niveau des conflits, ce qui va envenimer la situation, c'est qu'il y a un ou deux personnes qui veulent avoir raison. Regardez bien, que ce soit à la maison, que ce soit au niveau des personnes, au niveau des conflits au travail. Quand il y a une personne qui veut avoir la raison et qui résiste à avoir la raison, la situation va bien sûr se détériorer. Si deux veulent avoir raison, ça devient une situation ingérable. Donc la séparation va sûrement avoir lieu. Et ce n'est pas exceptionnel si on voit la situation au niveau de la famille, par exemple. On peut s'imaginer un enfant qui insulte son père, qui fait vraiment du tort incroyable. Et puis le père ne veut plus parler à son enfant. Il dit, il m'a fait du tort, je ne veux pas et je ne reviendrai jamais, je ne veux jamais lui parler. Bien sûr, tu as raison peut-être. Est-ce que ce qui est important, c'est d'avoir raison et de perdre son fils? Ou c'est de se dire, j'accepte, je n'ai pas raison, mais j'arrête puisque mon fils est comme mon fils. Je crois qu'on doit arrêter de chercher à avoir raison. Puisque s'il y avait quelqu'un qui avait raison, c'est bien Jésus-Christ. Il aurait pu ne pas mourir pour nous. Mais il a accepté de mourir à notre place. Et je crois que nous aussi, nous devons à un certain moment se dire, même si j'ai raison, mais j'ai envie de sauver mon couple. J'ai envie de sauver ma famille. J'ai envie de sauver ma relation. Et si j'accepte la faute que je n'ai pas commise, au moins et que je sauve le couple, que je sauve le foyer, que je sauve la relation au niveau de l'Église, je crois que là en haut, Dieu sera très content. Et c'est ça être artisan de paix. La situation est catastrophique, puisque la plupart du temps, quand des choses vont mal, on va dire, non, ça ne me regarde pas, laisse-moi la paix. Mais ce n'est pas ça l'artisan de paix. L'artisan de paix, c'est quelqu'un qui va oser aller là où les choses ne vont pas et essayer de réconcilier la situation pour que les choses aillent mieux. Et Dieu nous invite à être des artisans de paix. Dieu veut que nous puissions être des gens qui réconcilient comme Dieu l'a fait. Donc je vous invite justement au niveau de nos foyers, au niveau de nos relations avec les personnes avec qui nous travaillons, au niveau de l'Église même, que nous puissions lâcher l'affaire. Parce que Dieu a lâché pour nous, il a accepté de venir à notre place, de mourir à notre place, notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi nous sommes sauvés. Dans ces béatitudes, en général, ces béatitudes, il y a toujours quelque chose qui est annexé, une récompense. Ici, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On pourrait se dire, quand je suis baptisé, quand j'ai accepté le Christ, je suis un enfant de Dieu. Et c'est vrai d'ailleurs. Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont connu, à ceux qui l'ont accepté, il les a donné le pouvoir d'être appelés enfant de Dieu. Autrement dit, à partir du moment où j'accepte Jésus-Christ, je suis né de nouveau, je suis son enfant. Mais ici, on voit la différence. Il y a vraisemblablement une différence entre enfant et fils, ou fille de Dieu. Les fils et les filles de Dieu, c'est ce qui vont se mouiller plus. Ce sont justement ces artisans qui vont accepter d'aller dans les situations difficiles, se dire, j'accepte la faute que je n'ai pas commise, mais je vais sauver ma relation. J'accepte des situations difficiles, chaotiques, et je vais y amener la paix. La preuve, Jésus-Christ est le premier fils de notre Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils ou filles de votre Père qui est dans les cieux. La barre est très haute. Aimez nos ennemis. Aimez ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas facile, mais je crois que nous sommes invités à le faire. Nous sommes invités à prier pour des gens qui nous font du mal. C'est de cette façon que nous allons pouvoir restaurer des relations. Et pour terminer, la situation de paix, c'est une situation qui n'est pas facile à avoir. Être artisan de paix, c'est une situation qui n'est pas facile à avoir. Mais nous devons nous rappeler que notre Père Céleste, qui a accepté de donner son Fils pour réconcilier le monde avec son Père, il nous aime et il nous donne cette épée. Et cette épée, il nous la donne et il la donne à tout le monde qui l'accepte. Tout simplement, il faut le vouloir et le demander. Et surtout, il faut que nous changions de cette perception d'un Dieu qui est un Dieu, qui est un Père fouettard. C'est un Dieu qui nous aime. Il nous aime comme nous sommes, tel que nous sommes. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions, bien sûr, changer, grandir avec lui, chaque jour qui passe. Il y a, à l'époque romaine, il y avait les Romains, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient du n'importe quoi, des bandits sur les routes. Ils ont instauré ce qu'ils appelaient la Pax Romana. C'était la paix qui était imposée par la force. Quand tu faisais une chose qui n'était pas bonne, tu étais puni ou tu étais tout simplement fusillé. C'était une façon de pouvoir empêcher ou enlever le banditisme qui s'était installé dans le pays. Et Dieu n'impose jamais la paix par la force. Et ici, par contre, on peut comparer l'exemple de conducteur sur la route. Nous sommes tous des conducteurs sur la route. Est-ce que quand tu conduis, tu limites la vitesse pour ne pas qu'on te retire les points? Ça, c'est pour les Français. Pour ne pas qu'on te donne les amendes pour la Belgique et éventuellement un retrait de permis. Ou tu conduis la voiture parce que tu veux avoir la paix et surtout respecter aussi la personne qui est devant toi et qui conduit. Cet exemple me parle personnellement. Je ne suis pas un excellent conducteur, mais je fais des efforts jour après jour. Je le sais. Mais comment est-ce que nous conduisons la vie que Dieu nous a donnée? Est-ce que nous conduisons la vie parce que nous avons peur d'être punis? Est-ce que nous conduisons parce que nous avons peur d'avoir des conséquences quelconques? Ou tout simplement nous faisons la paix autour de nous parce que nous savons que Dieu nous a donné la paix et qu'il nous aime et qu'il veut encore nous aider à avancer avec lui? On raconte aussi l'histoire d'un... Si je peux demander à Yvette de préparer la chambre à avancer, parce que je suis en train de terminer. L'histoire d'un roi qui a demandé aux artisans de son pays de lui faire un tableau qui représente la paix. Et tous les artisans, ils ont présenté les tableaux au roi. Et le roi a choisi deux tableaux. Le premier, c'est un tableau qui représentait un ciel idyllique. Un ciel bleu comme on n'en a pas souvent le temps d'en avoir en Belgique. Avec un jardin extraordinaire. On peut s'imaginer qu'il y avait des fleurs. On peut s'imaginer aussi toutes belles choses qui se trouvaient sur ce tableau. Et ce tableau était très beau au niveau du regard. Et puis il y avait un autre tableau. Celui-là était un peu spécial. Ce tableau, il avait le ciel qui était sombre. Il y avait la pluie qui tombait. Il y avait la tempête. Il y avait du vent. Il y avait de l'eau qui coulait, qui était sale. Des éboulements, on peut s'imaginer. Et il y avait un rocher. Et dans le rocher, était caché un mama oiseau avec un sourire comme seuls les artistes peuvent le faire. Avec son sourire, il était en train de couver un petit oisillon. Et l'oisillon, il était là, il était content. Et le roi, il a choisi le deuxième tableau. Parce que le premier tableau, c'est un tableau idyllique qui n'existe pas en fait. Le monde qui est tout le temps bleu, avec un ciel bleu, le monde où il fait toujours beau, le monde où il fait toujours bleu, où il y a des fleurs partout, ça n'existe pas. Mais par contre, la vie que nous avons, il y aura des deuils, il y aura des maladies, il y aura des mauvais diagnostics, il y aura des conflits. Mais la seule façon de vivre dans ce monde, c'est d'être caché dans des rochers. Et ce rocher, c'est notre Dieu. Notre Dieu qui nous donne la paix. Même quand il y a tant de tempêtes, même quand il y a tant de perturbations, nous pouvons rester imperturbables parce que nous sommes dans l'abri d'un des rochers d'un Tout-Puissant. Que Dieu nous aide. Et que l'église de Woluwe soit remplie de beaucoup d'artisans de paix. Ce n'est pas parce qu'il y a des conflits, mais qu'on le veuille ou non, la vie est remplie de difficultés. La vie sera remplie de problèmes. Mais si nous sommes cachés dans l'ombre du Tout-Puissant, si nous sommes cachés dans un bon rocher, Dieu nous permettra d'aller de l'avant et de continuer à donner le sourire et d'être le rayon et d'être le sel dans le monde dans lequel il nous place. Que Dieu vous aide et qu'il continue à vous accompagner dans le cheminement que vous avez commencé avec le Seigneur. Amen.